création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Revox G36, caméra toupie, réticulation, sténopée, TCI. Notre univers ce soir sera sous l'emprise de la magie, onirique et magnétique. Comme hier, tout a été enregistré, monté et masterisé sur bande magnétique. Le voyage va nous conduire entre Bordeaux, Limoges et Paris. Nos rendez-vous auront le goût de la dissidence et de l'émerveillement. Photographie et argentique, alchimie discrète, transcommunication ou sur des cassettes surgissent les voix de l'au-delà. Cinéma expérimental et manipulation. Pendant Cannes et son festival, se souvenir que pendant 100 ans, le cinéma a gardé le même support d'origine. Et puis, prendre la route pour un road trip signé Marie-Laure Ciboulet, Claude Niort, Alain Joubert, Arthur Bégilette. Création on air.
Magnétisé, une apologie sonore des fous de la bande, de l'argentique et du celluloïde.
Arthur Bégilette, Marie-Laure Ciboulet, Claude Niort, Alain Joubert.
Enregistré en analogique sur Magra 4S et E.
Et mixé sur 5 magnétophones Digitech via une console Studer.
Quand on a commencé à écrire des chansons avec mon groupe Moriarty à la fin du XXe siècle, on a fait nos premières maquettes dans des studios parisiens fraîchement équipés en numérique. À la réécoute, quelque chose ne collait pas. Nous étions chacun dans notre monde musical. Et en 2005, Grégoire Morel et David Soisson, deux musiciens d'un autre groupe de rock, The Love Bandits, nous présentent leur vieux Revox G36, un magnétophone à bande et à lampe des années 60. Ils nous placent autour d'un seul micro, installé dans une grande salle de théâtre. Nous enregistrons les premières versions magiques de nos chansons, Jimmy, Private Lily. Plus tard, on se rendra compte que cette magie est le produit d'un mélange d'accidents musicaux qui raconte notre fragilité d'alors, conjuguée à une tension psychomagique lors de la prise. En effet, quand les bandes tournent, on sait qu'on grave un son qui n'est pas fait que de 1 et de 0. On sait que le son est vivant, il change, on grave. Et le moment est solennel, empreint de gravité. Nous avons appelé par esprit de contradiction ces démos de Ghostless Takes, les prises sans fantômes, précisément parce qu'elles étaient pleines d'esprit. Ces bandes ont souvent été notre refuge, et nous avons sur chacun de nos disques enregistré au moins une chanson sur support magnétique. Nous sommes partis sur la route avec Claude Niort et Alain Joubert à la recherche d'autres refuges de pratiquants de l'analogique, de dissidents du numérique, qui abrite de nombreuses pratiques en cinéma, en photographie. On est arrivé à Bordeaux, un joli mois de février, et la route a mis sur notre passage Tooms, photographe intégralement dévoué à la cause analogique.
Voilà, alors c'est très compliqué à décrire parce que... alors là, c'est un portrait. C'est un portrait d'un personnage qui explose, encore une fois, j'explose des têtes. voilà, et sur lequel j'ai redessiné un autre personnage. Donc on a un personnage réel sur lequel j'ai dessiné un personnage irréel.
Donc en fait, c'est pas une photo que tu prends.
C'est une photo qui est prise, mais qui est retravaillée à la main avec différents... alors là, c'est à base d'acide pour attaquer le négatif. Ensuite, il y a une stratification, effectivement, de couches de plaques de verre sur lesquelles il y a de la peinture ou du dessin. Normalement, je travaille sur du 6 cm par 6. Donc, je travaille avec une loupe et une aiguille. Voilà. C'est-à-dire une aiguille de seringue. Donc, pour dessiner, je fais soit par soustraction, par addition, c'est-à-dire qu'à l'aiguille, je gratte le négatif jusqu'à obtenir des formes. Alors, ça peut être des humains, ça peut être... En général, je déstructure des humains. Donc, ça, c'est le plus petit objet que j'ai trouvé pour le travailler. Et ensuite, je redessine dessus avec des crayons ou du stylo. Donc là, on peut obtenir des choses. Et après, en regrattant le stylo aussi. Bon, ça... Sinon, après, avec des bouts de bois aussi que je taille dans un taille-crayon et qui me permettent de gratter plus facilement. Voilà, c'est des tout petits outils, quoi. C'est hyper minutieux. Je vais dans un petit club photo à côté de chez moi, à Bordeaux. Tous ces effets-là, clairement, je ne pourrais pas le faire avec un ordinateur. Ou alors, ça me prendrait des mois entiers. Parce qu'on est plus proche du dessin et de la peinture que de la photographie en elle-même. Le support technique, c'est de la photographie, mais tout est fait à la main avec, avec des stylos et de la peinture et des pinceaux donc, et des aiguilles. Donc, voilà. Je ne pense pas que je obtiendrai ce niveau de détail-là ou même cette manière de travailler-là avec du numérique.
Mais tu saurais le faire ? Tu travailles quand même en numérique ?
Et je ne saurais pas le faire. Parce que je suis une pipe avec un ordinateur et j'en serais largement incapable. Et en plus de ça, je pense que je m'ennuierais devant mon écran, quoi. J'ai commencé avec le numérique parce que je suis arrivé au temps du numérique. Hein, je vais avoir 20 ans. Et c'était déjà les premiers appareils photo numériques. On parlait que de ça, donc j'ai pris ça. Et puis, je m'ennuyais beaucoup. Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert, au détour de rencontres, des gens qui travaillaient l'argentique. Et ça m'intéressait beaucoup. Et puis, je me suis lancé là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, ça part en vrille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu saches faire une photo avec tes mains de A à Z. Donc, je me suis mis à me réapproprier mon système et ma procédure de création de A à Z. Parce qu'à un moment donné, on ne se sent pas libre. Et sans la liberté de savoir comment on le fait de A à Z, on ne peut pas être un artiste complet. Et on n'a pas cette sensation de puissance quand on arrive au résultat final. Voilà, on a deux femmes en croix, là. Extrêmement réticulées et hyper abrasifs. En général, d'ailleurs, les négatifs, quand je les retravaille, ils ne survivent pas. C'est-à-dire que je fais 5 tirages et après, le néga, il est mort. Alors, j'essaye de les conserver, mais ça ne marche pas trop. C'est-à-dire qu'imaginons que je tire une image aujourd'hui d'un négatif que je viens de faire il y a 10 minutes. 6 mois après, il est tellement attaqué, le négatif, par tout ce que je mets dessus, que l'image aura changé. Mais vraiment, des fois, soit tout disparaît, soit il y a des choses qui apparaissent. C'est assez bizarre. Alors, je fais ce que 5 exemplaires par tirage, par photo. Et je peux pas les faut que je le fasse directement en sortant de mon labo. Parce que sinon, même 2 semaines après, ça a changé, quoi. Donc, j'ai plus du tout ce que j'avais opéré. Voilà. Elles vivent un peu leur vie toutes seules, quoi. Moi, j'ai jamais réussi à faire un truc propre. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si t'es pas capable de faire un truc propre, autant que tu fasses le truc le plus sale possible. Voilà, comme ça, moi, c'est réglé. Et puis, de toute façon, on pourra jamais rien te dire. Tu diras, il y a une pétouille, il y a un cheveu. C'est comme ça. Voilà. Après, ça participe un peu au désordre ambiant qui émane de mes photographies. Donc, tant mieux, quoi. Des fois, je prenais même de la poussière juste après avoir passé le balai. Je balançais tout ça là-dessus. Je mettais ça sur un radiateur. J'attendais un mois. Je reprenais la photographie. Je la retravaillais. Et puis, en fait, ça passait, quoi. Ça créait des choses dans l'acide, tout ça. Ça recréait des choses. J'avais amené mes photos une fois à Paris, vite fait, pour les montrer. Parce que j'avais envie de comprendre ce que je faisais. Et j'ai rencontré un photographe qui me dit « Ah, c'est marrant, c'est quoi ces réticulations, là? Comment tu fais ?» Moi, je dis « Les réticules, quoi ?» Il me dit « là, les réticulations, là, sur tes images, là. » J'ai dit « Mais ah bon, ça a un nom, ça ?» Il me dit « Oui, oui. » Il me dit « Mais comment vous les faites, vous, normalement ?» Il me dit « Dans la cuve. Quand tu développes ton image, il faut que à 80 degrés, que tu te mettes de l'eau chaude à 80 degrés pour que justement les cristaux se rassemblent un peu plus et ça crée des réticulations. Voilà, c'était créé, je sais pas, au début du siècle dernier. Un mec, il a trouvé ça en développant sûrement à l'arrache. Il s'est gouré, il a mis de l'eau chaude et puis bim, voilà, ça a apparu comme ça. Et je lui dis, ah oui, alors toi, tu fais ça dans ta cuve, quoi. Il me dit, oui, mais les tiennes, elles sont hyper marquées, comment tu te démerdes? Je sais pas, je les ai fait bouillir dans ma casserole. Hein, qui m'a dit que j'ai fait bouillir dans ta casserole. Mais c'est quoi ce délire? Je dis, bah attends, j'ai tout essayé. Hein. Je les ai mis au four thermostat 7. Ensuite, j'ai essayé dans le... Après, je les ai brûlés. Bon, ben, les négatifs, c'est du plastique. Bon, ben, ça sert à rien. Tu obtiens rien, tu détruis tout. Ensuite, j'ai essayé au micro-ondes. Ensuite, j'ai tout essayé, quoi. Et il me dit, ben, c'est dans la casserole, quoi. Donc, je suis là en train de faire ma popote. Et puis, à un moment donné, je vois que la gélatine commence à couler ou à s'extraire de l'acétate. Puis là, ben, j'attaque. C'est là où, après, je m'amuse avec, quoi. Voilà. Et c'est que ça, comme je le dis, c'est de la cuisine. C'est incroyable, quoi. Tu utilises des produits, tu mets un peu de sel, un peu de machin, un peu de citron, et puis boum, quoi. Ben, j'ai même utilisé de l'huile d'olive pour conserver les trucs, pour faire en sorte que ça coule. Pas vraiment, mais un peu, quoi. J'ai tout essayé, hein, franchement. Voilà. Moi, la sincérité, elle est là. Je crois que la sincérité, c'est quand, parfois, c'est mal fait. Ou on a l'impression que c'est mal fait, ou que c'est, comment dire, que le processus est bâclé. Ben, moi, je trouve que la je préfère une copie bâclée, au final, qu'un truc super bien foutu, quoi. Au moins, c'est sincère, quoi.
Un des refuges populaires des convertis à l'analogique est le Sténopée, une drôle de boîte à photographie qui fait souvent apparaître les fantômes. En sortant de Bordeaux, nous avons raté un virage et avons pris la longue route pour Limoges, où nous sommes arrivés tard dans la nuit chez Véronique Framery, nouvellement étudiante en photo après 15 ans de travail salarié.
Il y avait un truc, je sais pas comment j'ai atterri là-bas, mais j'ai atterri à Faugeras, donc qui est en fait un site qui est sur la zone nord de Limoges, pas très loin du cimetière. Et Faugeras, en fait, c'est la maison d'enfance de mon grand-père. Et donc je suis arrivée là, c'était très étrange pour moi, parce que ça fait... je pense que ça fait 10 ans que j'avais pas mis les pieds, et que c'est une maison de famille qui a été vendue plusieurs fois. Et en fait, il se trouve que là, le lieu était complètement abandonné. Et donc je regarde, je voyais une petite voiture devant, je vais frapper à la porte, personne, je fais le tour. Bon, je me dis, il n'y a personne, j'y vais, quoi. Et j'ai pris donc le pinhole camera, donc un sténopée panoramique. Un sténopée, c'est une espèce de... Ouais, c'est une boîte noire dans laquelle on fait un petit trou. Et après, on peut... Alors, effectivement, moi, celui que j'ai, c'est un sténopée en carton, donc c'est un appareil photo en carton. Donc je mets une bobine de manière classique à l'intérieur, un film. Et puis je tourne et je soulève un petit clapet pour faire entrer la lumière dedans. Et donc comme il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de lentille, c'est juste le fait que la lumière rentre par ce petit trou qui fait que ça se projette sur la pellicule et que ça imprime. Voilà. Mais après, effectivement, on peut le faire dans une boîte de conserve, dans une boîte à chaussures ou autre. Et on n'est pas obligé de mettre un film, on peut aussi juste mettre une feuille de papier. Et dans ces cas-là, c'est un one shot, on expose une fois et puis il faut vite aller développer et voilà. Et donc j'ai fait le tour du bâtiment et j'ai essayé de faire des images avec. Et donc ce qui était assez génial, c'est que avec le sténopée, il est vraiment, enfin il est en carton, donc très mécanique. Et donc en fonction, tu tournes manuellement les molettes, il n'y a pas d'entraînement automatique. Et donc tu fais le nombre de tours que tu veux et puis voilà, donc il y a une part d'aléatoire là-dedans. Et effectivement, je crois qu'il fallait tourner à peu près 3 ou 4 fois pour avoir un panoramique plein. Et moi, je tournais une fois et demie ou deux, un peu un petit bonheur la chance, quoi. Et en choisissant aussi de parfois réexposer la même vue pour faire des surimpressions. Et puis voilà, donc j'ai posé le pied, je me suis mis face à ce truc-là. Et en fait, je me suis sentie super mal. C'est-à-dire que très vite, c'est comme il n'y avait aucun bruit et c'est comme s'il y avait quelque chose, que le lieu était habité. Ça a été assez difficile. Il y a des endroits que j'ai voulu approcher, où j'ai voulu faire des images et j'ai pas réussi à les faire. Et à un moment donné, je me suis posée dans un escalier et en fait, j'ai l'impression d'être traversée par quelque chose et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne sais pas ce qui se passait. Et voilà, et j'ai fait des images, et je sais pas si tu vois dessus ou pas, mais ce qui est assez bizarre aussi, c'est que ces images, elles sont habitées. l'impression qu'il y a vraiment des fantômes dans ces images. Ce côté un peu justement vieillot, suranné, tu sais pas si c'est des photos d'époque ou si c'est des photos actuelles. Le fait que ce soit le sténopé, effectivement, ça brouille vraiment la vue. Il y a un côté hyper imparfait sur les images. Tu vois des bouts de... Voilà, des bouts. Enfin, il y a des poussières, il y a de la surimpression, il y a plein de choses qui... Du coup, ça fait des choses assez particulières.
Après la mort de mon père, il y a un an, je m'étais renseigné sur la transcommunication instrumentale, la science de l'écoute des voix de l'au-delà. J'y étais tombé sur les enregistrements sur cassette de Raymonde Beck. Intrigué, j'avais pris rendez-vous avec elle. Depuis Limoges, nous prenons la route vers la petite zone pavillonnaire en banlieue parisienne où elle habite.
Bonjour.
Bonjour Thierry.
Arthur.
Arthur, salut.
Bonjour.
Bonjour. C'est vous qui avez le métier le plus compliqué. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour madame.
Madame Beck.
Bonjour madame. Bonjour.
Arthur. Bonjour. Gillette. C'est vrai que vous avez un maillot à bord et tout?
Bah oui, regardez.
J'y crois pas.
Voilà.
J'ai pas vu ça plus 20
ans. On a amené notre magnéto à bande.
Carrément. Exceptionnel. Ça fait plaisir. Oh là là, ça me fait revenir très loin, ça.
Oui.
Vous avez travaillé avec ça?
Eh ouais, il y a 25 ans. Raymond Beck avait des anciens magnétophones, qui étaient super d'ailleurs, qui valaient un bras d'ailleurs à l'époque.
Des Sony.
Oui, mais malheureusement, ils sont tous décédés.
Et oui, malheureusement.
Donc je lui ai ramené celui-ci, mais elle a un peu de mal à le manipuler, donc je vais l'aider à le faire.
Dans le grand pavillon, Raymonde Beck nous accueille, accompagné de Thierry Nash, venu de Normandie, avec sa femme. Ils portent tous trois autour du cou de petites pierres noires et vertes. On s'installe autour de la table du salon, sur laquelle sont posés les magnétophones et les cassettes de Madame Beck.
Je me suis armé d'un petit magnéto, je me suis armé de cassettes. Donc je mettais cette cassette dans cet appareil, je mettais ma radio, je mettais le micro, bien sûr, un peu devant le poste de, comment dirais-je, radio, pour avoir le parler, enfin la communication qui était faite par la radio. Et j'enregistrais comme ça. Mon mari n'y croyait pas tellement. Bon... Et quand il est décédé, j'ai essayé et j'ai entendu son nom, il m'a parlé, et il s'est présenté. Et... Enfin, disons que c'était extraordinaire, quoi, miraculeux. Et puis ça a continué comme ça, et à chaque fois que j'avais un problème ou quelque chose, je leur demandais de m'aider. Et l'aide arrivait toujours. Hein. Ah oui, oui. Alors là, c'est bon à savoir quand même. Il faut demander, et vous serez entendu. À condition, bien sûr, le faire... Normalement, parce qu'il y en a qui le font par curiosité, pour s'amuser, pour essayer de voir ce qui se passe. Donc, je pense qu'il y a des esprits gentils, enfin, qui nous aident. Voilà. Et ça, il faut le croire. Enfin, faut le faire pour entendre et voir que c'est possible. Alors, Thierry, lui, il a, comment dirais-je, travaillé le phénomène et il a prouvé ce phénomène. Il existe, le phénomène. Moi, je pose des questions et les voix me répondent. Enfin, voilà. Alors, ma vie a été, si vous voulez, un peu... comment dirais-je... Ça m'a aidé à vivre, si vous voulez. Aidé à vivre cet espoir, et je l'ai toujours, d'ailleurs. Puis je vais les rejoindre, alors. Ça sera la grande réunion.
Vous pratiquez encore la TCI?
Moi, je pratique encore, mais moins, parce que c'est fatigant. C'est très fatigant. Non pas d'enregistrer, mais d'abord, quand on enregistre, il faut aussi être ailleurs. On n'est pas là, vraiment, on n'est pas sur Terre, vous voyez, on est ailleurs. Et après, bien, il faut relire. C'est ça qui est long. Ben, c'est-à-dire que j'écoute ce que j'ai enregistré, je note mes appels, et ensuite je note ce qu'on me répond, quand il y a réponse. Quelquefois, il n'y a pas de réponse, bien sûr. Parce qu'il faut aussi savoir qu'on ne sait pas comment ça se passe. Ils peuvent ne pas être là quand j'appelle. Ils peuvent ne pas avoir la permission. Peut-être qu'ils ont des permissions à demander. Moi, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et puis, on n'est jamais sûr d'avoir quelque chose. Et moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir de belles voix. Oui. Voilà, alors bon, je continue, mais moi en ce moment, parce que je suis quand même fatigué, âgé, très âgé même. Alors donc, si j'ai eu mes 90 ans la semaine dernière, pas la semaine dernière, ce mois-ci.
Et vous avez enregistré combien de cassettes au fil de ces 20 ans?
Combien?
770.
770 cassettes. Ben oui, mais ça fait quand même plus de 23 ans que je le fais. Est-ce que c'est celle-ci?
Voilà, j'enclenche dans le magnéto. Ok.
Ma Paulette, es-tu là?
Donc là, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous capter un petit peu le signal européen. Donc c'est un signal très aigu qui fait ça derrière. Peut-être vous en souvenez. Madame Beck parle et ensuite, tout de suite après, vous avez une petite intervention vocale. J'entendais le support allemand derrière. Et le signal européen aussi.
Même ma Paulette, es-tu là?
Voilà, donc, à la réponse, est connecte-toi sur 125. Je vais vous faire écouter la partie.
On m'indique une fréquence. Parce que souvent, je leur demande, quand je n'ai pas beaucoup de voix ou que c'est pas clair, je dis, indiquez-moi une bonne fréquence pour que je puisse vous parler mieux. Et c'est pour ça que ma sœur me répond, ma sœur n'était plus là. Et elle me dit...
Oui. Je t'en prie. Je leur passe juste...
Ma Paulette, es-tu là?
Connecte-toi sur 125. Il y a plein d'informations audio-techniques dans ce message qui intervient en fait sur la remodulation et le recalibrage du signal européen. En fait, à chaque fois que Mme Beck obtient quelque chose de cette nature, on est sur la porteuse de la recalibration du signal européen. Je vous positionne une deuxième cassette. Vous avez le support et le signal européen en même temps.
Je suis là, mes chéris. Je vous écoute. Je n'ai pas de questions particulières ce soir. Vous me dites ce que vous voulez, ce que vous pensez.
Là, vous avez une réponse. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce message. Tout d'abord, la question. Vous me dites ce que vous pensez. La réponse est, la pensée, elle demeure, Raymond. Avec un petit effacement sur la partie monde qui s'explique aussi techniquement. Toujours la porteuse derrière. Je vous le repasse vite fait.
Je n'ai pas de questions particulières ce soir. Vous me dites ce que vous voulez, ce que vous pensez.
La pensée,
voilà. La pensée, elle demeure, Raymond.
Donc,
c'est intéressant par rapport à la symbolique du message.
Voilà.
La pensée, elle demeure, ça donne une connotation de l'existence après la mort.
Voilà, d'une survie.
C'est
voilà.
Sympathique.
D'une survie spirituelle. Et donc, c'est quand même, quand on a perdu quelqu'un, c'est une réponse extraordinaire d'espoir, si vous voulez.
Et là, la bande magnétique, pour revenir au support, est très intéressante. Le concept même de fabrication, la structure de la bande magnétique, fait que c'était l'élément déclencheur. Pourquoi? Lorsque vous regardez une bande magnétique au microscope, vous allez vous retrouver qu'une piste sur laquelle vous avez des milliers de petites particules, soit de fer ou de chrome, ou les deux mélangées. Et on les voit très bien. Imaginez-vous des petits rectangles successifs qui se suivent les uns les autres, et ce, sur plusieurs étages. Eh bien, ces toutes petites particules, lorsqu'elles vont frotter la tête de lecture, ça va générer un souffle, un bruit. C'est normal, c'est le frottement. Eh bien, ce frottement-là, il est utile... on va dire aux invisibles qui laissent des messages sur les bandes. Et ces choses invisibles vont exciter ces toutes petites particules de fer ou de chrome et vont les déplacer. Okay ? Et ce déplacement, on l'entend très bien. Et ce déplacement, ça va donc générer des plages de fréquence. Ça va être transformé, ces petits bouts de plages de fréquence vont être mis bout à bout. Et comme le fait le larynx, vous allez obtenir à la fin une voix compréhensible pour vous. Ça peut être un mot, ça peut être une, 3-4 mots qui vont se suivre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. La qualité de la voix, sa tessiture, sa texture, va complètement dépendre de ce souffle, en fait. Si je n'ai que 3000 fréquences pour vous parler, vous comprendrez bien que vous n'allez pas tout saisir tout de suite. Parce que ça va être noyé dans un seau, ça va être mélangé. En plus, ça ne va pas avoir une voix très claire. On aura une voix qui aura le même son que le souffle lui-même. Donc si j'ai un souffle qui fait ceci, avec 3000-4000 fréquences mélangées, et que je veux faire un mot avec ça, je vais obtenir « Comment vas-tu ?» Vous voyez, parce que je n'ai pas plus à vous proposer. Je n'ai pas plus de fréquences. Il y a vraiment une interface qui se passe électronique entre les invisibles qui transmettent l'information et la façon dont ils peuvent se servir du support qu'ils ont à leur disposition pour inscrire le message. Donc c'est très intelligent comme système. C'est quand même assez fabuleux. C'est remarquable. Allez, encore une autre, et ça sympathique aussi, c'est laquelle ? 265, la voici. Donc là, Madame Beck, on est en 97, 98, je crois.
Oui, 97.
Elle est au Cambodge. Donc c'est pareil, vous avez une émission de télévision qui passe. Il y a une série qui passe à la télé. Et elle enregistre l'ensemble de l'émission.
Je vous appelle exceptionnellement, mes chéris. Parce que j'ai déjeuné. J'ai déjeuné avec Christian et nous avons parlé de sa fille, Valérie Gibert. Peut-être dire quelque chose à ses parents. Valérie, je vous appelle. Valérie, je vous appelle. André, Nicolas, Philippe, aidez-la. Je vous remercie.
Quand on fait un road trip, on passe souvent du temps dans des drôles de zones comme les stations-service. On flâne et parfois on achète. Avant, on pouvait trouver des cassettes, mais en ce mois de février, je tombe sur un DVD, Blowout, de Brian De Palma, le remake de Blow Up. Dans Blowout, John Travolta est un gesson pour de mauvais films de série Z. Il se rend dans un parc la nuit pour réaliser des enregistrements sur bande et assiste à un cri. Revenu dans son studio de montage, dans une séquence légendaire, il revisite le soir du crime par le son et découvre un coup de feu.
Beautiful night for a walk.
Yes, it is.
Let's take a walk along the river here. Nice.
David, look, there's someone on the bridge.
Oh, let's not worry about that.
He's staring right at us.
Who cares?
I care.
Betsy.
I don't want to stay here anymore. Let's go. What's he doing?
I don't know.
What is he, a peeping Tom or something?
Oh, who cares? Come on, let's walk down here.
Thank you.
Sur la route, on tombe sur des drôles de sons. Aujourd'hui, quand on roule, on tombe sur des éoliennes dont le son ressemble drôlement à une bande magnétique qui se dévide. Et quand on enregistre sur bande, voir la bande provoque un drôle de sentiment. Les bobineaux sont comme les roues d'une voiture, seulement au ralenti. On sent le temps qui passe, la bande tourne de la gauche vers la droite par toute une série de petits trajets devant les têtes d'effacement, d'enregistrement, de lecture, en passant par des systèmes de roulement mécanique. À droite, la bande enregistrée, le passé. À gauche, le futur, sur lequel on va imprimer pour l'éternité, enfin au moins pour 40 ou 50 ans si la bande est bien conservée. Et pendant une projection d'un film argentique, il y a aussi cette transe du battement. Ici, une image sur deux est noire.
C'est le battement de la projection cinématographique qui la différencie de la projection vidéo et qui est une des raisons qui fait que, personnellement, même si ce n'est pas le cas de tous les cinéastes, travaillent à l'abominable, mais personnellement, moi, je diffuse les films uniquement sur le support avec lequel je les fabrique, c'est-à-dire le support film. Et dans la projection cinématographique, l'obturateur masque le faisceau pendant le temps où le photogramme descend dans le couloir pour être dans la fenêtre, pour être montré. Donc cet obturateur masque le film. Et en général, il est double, donc effectivement, 48 fois par seconde, il y a cette alternance entre l'image et l'absence d'image. Et ce qui fait qu'effectivement, quand on regarde une projection cinématographique, la moitié du temps, physiquement, on est placé dans l'obscurité. Bon, on peut toujours dire qu'on ne voit pas la différence, parce que c'est un phénomène qui est peut-être au niveau de la perception inconscient, mais en même temps, fondamentalement, il est quand même différent, quoi. Donc on peut estimer que c'est pas la même chose.
Après avoir quitté le pavillon de Madame Beck, nous sommes arrivés près de la cité des 4000 à la Courneuve, dans les cuisines d'une ancienne école, transformé en un gigantesque laboratoire collaboratif par l'Abominable, association dédiée au cinéma expérimental en argentique. C'est Nicolas Rey qui nous accueille, cinéaste, qui se définit comme fabricant de films avec les mains.
C'est le générique de l'homme à la caméra de Vertov, où effectivement, c'est pas marqué réalisateur, régisseur, en russe, c'est marqué Rukavaditi à l'experimenta, c'est-à-dire celui qui conduit l'expérience, mais dans Rukavaditi, c'est avec les mains, Ruki, c'est les mains. Donc effectivement, c'est déjà tout à fait manuel et concret. Et c'est vrai que la pratique des cinéastes qui travaillent à l'abominable, elle est extrêmement concrète, et que même si des connaissances techniques de la chimie ou de la mécanique ou je ne sais quoi encore peuvent concourir, ceux qui ont cette pratique et qui la développent et qui la développent sur plusieurs années, etc., c'est d'abord ceux qui aiment bien mettre les mains, alors pas dans le cambouis, mais dans l'eau tiède, on va dire, dans les produits chimiques très dilués, et se servir d'outils un peu un autre qui engendre d'autres rapports que l'ordinateur. Là-bas au fond, c'est la salle de la chambre noire où on a les tireuses pour faire les copies. Ça, je viens vous montrer ça.
Autrement, la Molussie de Nicolas Rey est une adaptation des Catacombes de Molussie, un roman du philosophe allemand ayant fui le nazisme, Günther Anders. Les prisonniers dans les geôles fascistes se transmettent des histoires. Il est question notamment de l'obsolescence de l'homme face aux machines. Pour ce film tourné en 16 mm, Nicolas Rey a fabriqué avec Christophe Goulard le Zephyrama et la caméra Toupie, des systèmes de caméras qui réagissent au vent et aux éléments, où le cinéma en vient à être possédé par les éléments.
Dans autrement la Molussi, c'est sûr qu'il est beaucoup question de ce jeu, de cette dialectique entre maîtrise et puis abandon. Maîtrise du cadre, mais abandon au médium, pellicule périmée, donnant des résultats imprédictibles, abandon au bon vouloir du vent qui entraîne les pales de la caméra entraînée par le vent qu'est le Zéphirama, abandon à l'aléatoire de l'angle à laquelle va s'arrêter la caméra toupie qui fait tourner et tournoyer l'horizon et puis qui s'arrête avec un horizon imprédictible aussi, et en même temps un montage assez défini à l'intérieur de chaque bobine et puis 9 bobines qu'on assemble par contre aléatoirement. Un aller-retour comme ça entre ce qu'on maîtrise quand on fait un film, quelque chose de défini, puis ça part à soi en tant que spectateur, cette part aussi de jeu qu'il peut y avoir. C'est la chambre noire où on peut à la fois faire des développements à la main, des choses comme ça, mais c'est aussi la salle de tirage avec, avec la notre fameuse Matipo, c'est-à-dire la machine de tirage des positifs, comme ça s'appelait. Et voilà, c'est des machines françaises de Brie, et ils avaient le sens de la poésie. Donc ça s'appelle une Matipo, je vais vous l'allumer pour que vous vous rendiez compte. Donc, on a le moteur et ensuite il faut allumer la ventilation. Voilà. Ensuite la lampe. Voilà, et là-dedans on fait circuler le négatif et puis le film vierge pour faire la copie. Voilà. Et ensuite il faut supporter ça dans le noir pendant une demi-heure pour tirer sa bobine. Et derrière, on la développe et c'est comme ça qu'on peut faire des copies. Pour revenir à Autrement la Molussi, effectivement, qui s'appuie sur un texte, donc La Catacombe de Molussi, qui a été écrit par Gunther Anders, qui est quelqu'un qui, toute sa vie, a réfléchi sur la question de la technique et de notre rapport à la technique et peut-être à la technologie. Avec un rapport critique, il dit que l'homme, désormais, connaît la honte prométhéenne. C'est-à-dire qu'il se sent inférieur aux machines qu'il est capable de construire. Que les machines sont devenues tellement parfaites, tellement parfaitement conçues et étudiées, que lui-même a finalement honte d'être un être humain qui est seulement né. La part de défaut, la part d'aléatoire, justement. Et donc, à partir de ce constat qui fait quand même très tôt, il bâtit toute cette philosophie qu'il développe dans deux tomes de l'obsolescence de l'homme. Et effectivement, il développe ça dans une critique assez radicale du monde aujourd'hui gouverné par la technologie, où effectivement, à partir du moment où un objet technique peut exister, eh ben cet outil doit être créé et il doit être mis sur le marché et il doit être exploité. Il y a une espèce de fondamental des sociétés du XXe siècle et peut-être encore pire au XXIe, qui est le socle technologique. Et comment ça ne peut pas être discuté ou remis en cause. Il le voit très bien, et dès la page 6 de l'obsolescence de l'homme, c'est écrit « Rien ne discrédite plus rapidement quelqu'un que de critiquer les machines ». Donc la critique du progrès est quasi impossible parce qu'elle rend tout de suite son émetteur un passéiste, un nostalgique, un technophobe, etc. Quand on travaille dans les conditions où on travaille à l'abominable, bah, il faut retoucher ses manches et faire le développement des originaux soi-même. En une journée, ici, en 16 mm, on est capable de développer 30 minutes de matériel. Donc ça donne une petite idée qu'il faut passer plusieurs jours à développer pour voir, avoir les négatifs. Puis après, bon, soit les numériser, soit en tirer une copie si on veut faire le montage aussi sur pellicule, pour pouvoir effectivement voir ce qu'on a filmé. Donc on est toujours dans des processus longs, et le montage aussi en pellicule. Moi, c'est vrai que je fais le montage sur une copie de travail, donc du coup, effectivement, il y a toute cette économie temporelle du montage en pellicule qui est invraisemblable à l'heure du numérique, effectivement, où bah, si on veut aller chercher un élément, il faut faire défiler la bande jusqu'à trouver l'élément, et si on veut changer quelque chose, il faut aller à l'endroit et de la bobine où on veut faire la modification, et rembobiner ensuite et les regarder, et on peut pas avoir plusieurs versions en même temps, et etc, etc. Donc toute cette économie du montage en pellicule est vraiment un endroit où le temps n'a rien à voir avec le temps du numérique. Et en même temps, si je puis dire, c'est, pour moi, c'est une chance, quoi. C'est vraiment quelque chose de profond, quoi. Mais après, je peux comprendre que d'autres gens ne supportent pas ça, ou n'en aient pas envie, ou que ça soit en tout cas pas dans les cordes de la production, si elle a un tant soit peu de contraintes économiques ou temporelles, parce que ce n'est pas efficace. Donc ça, c'est notre bon titre dont on sert pour faire parfois des prises de vue d'animation ou des génériques ou des éléments en tout cas qui nécessitent une prise de vue comme ça, avec une caméra qui pointe sur une table. C'est un des derniers modèles des années 80. Ça va une fortune. Ouais, ça y va. Qui est quand même une part de tournage un peu solide maintenant, qui continue à se faire sur pellicule. Après, la question de diffuser les films sur pellicule, et je parle là pas forcément de films récents, mais aussi de toute la part de films de l'histoire du cinéma, qui est encore des endroits où on peut voir les films sur le support qui a été celui du cinéma pendant 100 ans. Cette question-là, elle n'est pas si évidente, parce que dans les archives, les cinémathèques, le numérique est passé par là aussi, et la facilité de diffusion que ça représente, sous la pression des ayants droit aussi, qui sont tout à fait intéressés à diffuser plutôt ce qu'ils appellent abusivement une restauration numérique du film, donc un fichier plutôt qu'une copie film, elle n'est pas si évidente, parce qu'elle veut dire quand même réussir à faire à tenir les outils de projection, à en faire la maintenance, à former des projectionnistes. Et c'est un peu pour ça qu'on a été moteur cet automne d'un site internet qui s'appelle filmprojection21.org, qui essaie de rassembler tous ceux pour qui la projection photochimique importe.
Petit à petit, pendant l'entretien avec Nicolas Ray, le Nagra commence à flancher. Le son n'imprime plus sur la bande, il y a des chutes de niveau. Le Nagra semble démagnétisé. Nicolas Ray va en fond d'une pièce de l'abominable et trouve un vieux carton avec des vieilles bandes. Nous essayons, mais rien n'y fait. Nous nous souvenons alors des petites pierres autour du cou de Raymond Beck et de ses amis. Sont-elles les coupables ? On repart en quête d'un Nagra 4S en état de marche. Car à Radio France, il n'y en a plus qu'un. Et c'est celui qu'on utilise. Au petit matin, on trouve un autre Nagra 4S, finalement, après une nuit d'angoisse. Nous le récupérons et nous allons écouter Francesca Veneziano, qui anime avec Louise Bernard et Tatiana Monassa de l'association Braquage, un atelier de cinéma expérimental pour enfants. Ça se passe à l'Espace en cours, dans le 20e arrondissement de Paris. Dans tous les refuges visités, les adeptes de l'analogique ont à cœur de transmettre leur dissidence aux plus jeunes.
Bienvenue à l'Espace en cours. Donc, sachant qu'on sera ensemble pendant 2h30, donc à n'importe quel moment, vous trouvez que je raconte des choses trop compliquées, ou que je parle trop rapidement, ou simplement vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, vraiment pas, à aucun moment, à me la demander, ou bien à demander à Louise et Tatiana qui travaillent avec moi, donc on est trois sur cet atelier. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis sûre que oui. Ouais.
On va dessiner des images sur une pellicule.
Mm-hmm. Et après
On va les faire tourner.
On va les faire tourner dans quelle machine
Dans une... On va les faire tourner dans un projecteur.
Alors, je ne sais pas si ici on va voir...
Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un atelier d'intervention sur pellicule. Donc soit on dessine sur de la pellicule transparente, soit on gratte la partie émulsionnée, donc l'émulsion de la pellicule noire. Et donc les enfants et les adultes aussi vont réaliser un film collectif, sachant que chacun d'entre eux aura à disposition juste quelques secondes de pellicule 16 mm. Donc ça fait un film. Et ils font voilà, une sorte de film d'animation collectif.
Écoutez-moi là maintenant, après je vous répondrai à toutes les questions. Là, c'est le début, sur la partie droite de chaque table. La partie droite, donc, c'est la pierre sûre, c'est la pierre, etc. Faites des choses simples.
Ah, c'est là le début.
Côté droit de chaque table. Voilà. Donc, faites plutôt des points, des lignes, des traits. Si vous voulez faire quelques formes reconnaissables, sachez que ce n'est pas sûr qu'on la verra à l'écran. Donc amusez-vous plutôt à faire des choses, à faire du gribouillage. Voilà. Allez, c'est parti. Si vous avez des questions, c'est maintenant.
Il y a un côté magique, de toute façon, dans la mesure où presque personne, les enfants et les adultes qui viennent à nos ateliers s'attendent aux résultats après. Ou sinon, oui, ils peuvent avoir une petite image, mais ce n'est jamais ce que ça donnerait effectivement après. Après, oui, évidemment, il y a le côté enfance parce que les adultes se retrouvent à dessiner. Et normalement, je parle pour moi, mais je pense que la grosse majorité des adultes a perdu l'habitude et le plaisir du dessin. Et du coup, on le retrouve quand on est après un peu contraint, voilà, pas obligé, mais contraint par l'atelier. Donc il y a de ça. Et après, enfin, comme côté enfantin, mais c'est maintenant que j'y pense, c'est beaucoup la relation avec la matière. Ce n'est pas pour dire que l'argentique, la pellicule est mieux que le numérique, ce n'est absolument pas ça, mais je pense, enfin, nous de l'association, nous pensons un peu tout ça, je crois, que chaque support peut donner des résultats très différents, en fait, et donc on utilise l'un ou l'autre selon ce qu'on veut faire. Et nous, on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup le côté matériel, tangible, en fait, le contact presque avec les objets qu'on utilise, et ce genre de contact, on l'a beaucoup moins avec le cinéma numérique. On touche la pellicule qu'on projettera après.
Ok, vous pouvez aller vous asseoir. Bravo, c'était... Alors, ça allait trop vite. Qui m'a dit ça allait trop vite? Malheureusement, non.
Ça allait exactement à la bonne vitesse.
C'est pas vrai.
Voir et entendre l'émerveillement des enfants devant une projection 16 mm de leurs travaux est contaminant. Un des points communs de tous les pratiquants de l'analogique est cette capacité à l'émerveillement permanent. Sébastien Ronceret est de cela. Prolixe, il est un des fers de lance de l'association Brakhage, dont le nom reprend celui d'un cinéaste expérimental américain, Stan Brakhage, qui a testé les limites de la matière argentique et de la pellicule. Sébastien Ronceret prépare ce dimanche soir le projecteur pour un ciné-concert de Que Viva Mexico avec Ignacio Plaza Ponce à la musique.
À titre personnel, en tout cas, après il faudrait voir avec chacun des braqueurs, mais à titre personnel, moi je me suis peu confronté, en tout cas dans le champ de l'expérimentation, à des œuvres qui m'aient vraiment plu en numérique. Il y a ce côté-là aussi, c'est, je ne pense pas être spécialement vieux jeu ou quoi au caisse, mais je pense que le numérique a d'autres choses à faire que ce qu'il fait. Qu'en tout cas, dans le champ de l'expérimentation, il y a quand même une recherche qui est différente et qui est vraiment liée, on va dire, à ce support, à cette nouvelle matière d'image qui se développe très rapidement avec le numérique, avec des outils qui changent. Extrêmement rapidement, avec une obsolescence aussi des machines, qui est une chose sûrement à réfléchir, à penser. Et du coup, ça crée des œuvres aussi qui peut-être ont une pérennité un peu différente. Et ça, par rapport à la pellicule, moi, ça me paraît toujours intrigant, quoi, de dire, voilà, on programme des films, là, ce soir, un film des années 30, dans une programmation de cours, il peut y avoir un film des années 20, un film des années 2015, un film des années 1960. Pour nous, il n'y a pas d'actualité au sein du cinéma expérimental, toutes les œuvres sont présentes. Et actuellement, à mon sens, en tout cas, l'histoire du numérique est peut-être pas encore assez riche, en tout cas pas assez différente de ce que pourrait faire l'outil pellicule, l'outil argentique. Et du coup, je pense qu'il y a d'autres choses à trouver en numérique et qu'il faudrait aller chercher d'autres manières de faire des images avec ce nouvel outil. À titre personnel aussi, moi je fais aussi des films et je travaille que en argentique parce que j'ai besoin de toucher les choses, quoi. Que ce soit même le scotch de la colleuse, que ce soit l'odeur des chimies, que ce soit le temps qu'il faut entre le moment du tournage et le moment où on va enfin voir les images, qui peut être des fois de 6 mois. En numérique, je sais qu'il n'y a pas cette latence-là, en tout cas cette attente-là, et ce n'est pas non plus la même concentration quand on tourne en pellicule que quand on tourne en 35 minutes, en numérique. L'autre jour, c'était même des cinéastes importants, quelqu'un comme Philippe Garrel, l'autre jour, racontait ça, c'était amusant, il disait que pour lui, un tournage en 35 mm, c'est quand même 1000 fois plus beau, ne serait-ce que pour l'attention que l'ensemble de l'équipe technique. Alors moi, je ne travaille pas avec plein de techniciens, je travaille tout seul, mais Garrel, il a quelques techniciens avec lui quand même. Et quand il parle de ça, il dit, voilà, les techniciens, quand ils sont prêts, ils sont prêts. En numérique, on essaye, on voit, ah là, non, on va changer ça, tiens, on va remettre un truc. Ils ne sont jamais prêts, les acteurs non plus, etc. Il y a une autre manière de penser les images et d'avoir une concentration par rapport aux images. Moi, je trouve beaucoup plus belle en argentique, alors que le numérique permet sûrement de faire d'autres choses, mais inventons, enfin, il faut les inventer, quoi. Il ne faut pas essayer de recopier. Parce que l'industrie nous dit, l'argentique trop cher, numérique moins cher, allons-y, changeons toutes les machines, on va voir, vous ne ferez pas la même chose exactement, mais ça coûtera beaucoup moins cher, les producteurs s'en frottent les mains, etc. Et on se rend compte que c'est de moins en moins vrai, et même des chefs opérateurs, actrices comme Caroline Champetier le dit très souvent, quoi. Elle dit, mais en fait, ça coûte beaucoup plus cher de tourner en numérique, parce qu'on passe un temps fou à transférer des fichiers, à faire des codes de ceci ou de cela, à caler les caméras pour qu'elles filment pareil, à trouver la bonne caméra qui aura la bonne sensibilité dans tel type d'espace, alors qu'avant, en argentique, on savait que cette pellicule-là pouvait filmer en intérieur, en extérieur, avec ceci ou avec cela. En numérique, avec la multiplication des machines et aussi leur brièveté d'utilisation d'une certaine manière, elle dit, il me faut 2 mois, 3 mois des fois pour tester des caméras numériques pour savoir ce que je vais pouvoir en faire. Et on perd un temps fou. Là, il y aura un changement de bobine, parce qu'une bobine dure à peu près 40 minutes, le film fait 1h20, donc on va devoir changer un moment la bobine. Projetant souvent avec Ignacio, je sais que lui, il aime bien jouer, même pendant le changement de bobine, il continue le thème qu'il vient de jouer. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un espèce de moment où il doit s'adapter à quelque chose qui lui échappe, d'une certaine manière. Après, la copie peut casser aussi.
Consciemment, au départ, justement, et à un moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a ce côté rythmique, ça pouvait imposer aussi un rythme musical, ou que, en tout cas, ça prenait une place sonore qui est très importante, surtout parce que parfois, surtout quand j'improvise, je me permets de jouer aussi avec le son et avec les instruments que j'utilise, dont certains analogiques aussi, qui ont une certaine vie, un certain grain, des accidents Et avec ces accidents-là, je joue dans l'espace, avec l'espace qu'il lui prend. D'ailleurs, lui, il en a aussi des accidents. Quand la pellicule est pète, il doit réparer ça en deux secondes avec un bout de scotch. Parfois, on s'est dit, là, il y a deux bobines, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait une vraie pause, on ne fait pas de pause. Et parfois, on ne s'est rien dit. Et l'ambiance qu'on avait créée pendant le film, et avec lui, et aussi avec le public, parce qu'il faut dire que le troisième élément de tout ça, ou le quatrième, c'est le film sur l'écran et les projectionnistes et les musiciens. Le quatrième, ça serait le public. Donc parfois, on crée une certaine ambiance qui s'y prête à qu'on la continue pendant ce temps qu'il y a le noir et que lui est en train d'échanger la pellicule. Et donc, du coup, il fait un certain bruit en changeant ça. On comprend qu'il y a un appareil qui a de la vie aussi et que... Donc du coup, ça fait partie un petit peu du film, comme un petit moment un peu différent, mais toujours dans l'ambiance.
Revenus à Radio France, nous avons sorti les ciseaux, les collants, de l'amorce jaune, de l'amorce bleue, des noyaux. La maintenance de la radio a révisé et installé avec efficacité 5 magnétos au studio 115. Ironie du sort, juste en face de la cellule de recherche en son spatialisé. Sans ordinateur, les chefs op et la chargée de réalisation ont repris les gestes d'artisans. En les regardant mixer, une sorte de danse entre la console et les magnétos en équilibre, je repense à tous ces fervents de l'analogique que nous avons croisés sur les routes. Il y a des mots qui leur vont bien. Tension, concentration, honnêteté, accident, spontanéité, cuisine, équipe, le temps qui s'étire, attente, sur le fil.
C'est ambiance sol, ça ?
Oui,
nous, ce qu'on préfère faire...
Ça, c'est ambiance seule. On pourrait reprendre là-dessus. Nous, ce qu'on préfère faire, c'est là-dessus. Nous, ce qu'on préfère faire, c'est
là. On peut reprendre là. Attends, ça doit être la plage là. On va vérifier.
On peut reprendre là. Magnétisé. Alors, avec Tooms, Véronique Frammery, Raymond Beck, Thierry Nash, Nicolas Rey, Francesca Veneziano, Sébastien Ronceret, Ignacio Plaza Ponce. Extrait de Blue Out de Brian De Palma. Merci à Léa Crespi et Bob Cook. Prise de son et mixage, Claude Nior et Alain Joubert. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Coordination, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko. Une émission d'Arthur Bégilette, avec le soutien de la SCAM Brouillon d'un rêve.
Demain, à 23h, vous retrouverez Lana Zera. La semaine prochaine, dans Création On Air. Mercredi, à la recherche de la chanteuse New Wave, Sue Tissue, avec Guillaume Lingre et Céline Terce. Jeudi, Univers Box, par Vincent Detour, Dominique Henry, Luc Plantier. Et maintenant, Philippe Garbi déplie les nuits de France Culture.